Mais d'abord, nouvelle directrice générale par intérim, Anne Hébert, qui est avec nous de l'Office des personnes handicapées du Québec. Anne, merci d'avoir pris le temps de venir, de partir de votre beau Drummondville et de venir nous joindre avant de retourner chez vous.
Bonjour, ça me fait vraiment plaisir.
J'apprécie parce que on peut dire, en tout cas, moi, j'ose dire que Sylvie Tremblay a mis la table. Elle a, comme directrice générale précédemment, accepté de faire les efforts pour rapprocher par sa disponibilité l'Office. À tout le moins, répondre aux questions, venir ici. Elle a même co-animé pendant un mois. Et je suis content que c'est même vous qui nous avez appelé pour dire hey, « j'aimerais ça, moi aussi, là, je viens d'arriver, puis j'ai des choses à dire. » L'intérim, c'est difficile ou, au contraire, on sent quand même qu'on a les coudées franches?
Un intérim, c'était non prévu, là. Ça s'inscrit en continuité. C'est-à-dire que on essaie de poursuivre les éléments importants de l'organisation. J'arrive en intérim au moment où l'Office venait d'adopter son plan stratégique. Puis ce plan-là a été aussi adopté par le gouvernement. Donc, la période d'intérim est assez facile à identifier quelles doivent être les priorités. C'est-à-dire, c'est mettre en place ce plan stratégique-là. Donc, c'est en continuité. Puis j'arrive à une période, à direction générale, où mon principal objectif, c'est de créer, là, de mettre en place tous les éléments pour qu'on puisse réussir notre plan stratégique.
Ouais. Mais êtes-vous à l'aise au poste de directrice générale et est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez poursuivre puis qu'on vous nomme une fois pour toutes? Parce que ça fait 30 ans que vous êtes vous connaissez tous les corridors là, et tous les tiroirs de l'Office.
Oui, c'est sûr que j'aimerais ça poursuivre ce mandat-là au-delà de l'intérim. Vous savez, quand on est au service de l'État, d'une institution gouvernementale, c'est pas une décision qui nous appartient.
Ouais.
Ce qui nous appartient, c'est de bien faire notre travail pendant le mandat qu'on nous confie. Donc, je le fais avec cette perspective-là. Mais j'ai la chance aussi, là, dans l'intérim, là, l'Office est une organisation dynamique, jeune. Les gens sont très engagés. C'est très stimulant d'être à la tête d'une organisation où les gens veulent réussir le mandat de l'Office.
Ouais.
C'est ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas de nombreux défis à relever, là. On pourra s'en parler, mais c'est une organisation très engagée.
Je suis content, Kevin, que vous soyez là parce que en regardant un peu ce qui sera le plan quinquennal, vous qui travaillez pour un organisme de défense, au lieu d'avoir une réaction par courriel ou sur Twitter, ben vous allez pouvoir
réagir à chaud.
Absolument, absolument. Parlons-en donc de ce plan.
Puis vous parliez des communications tout à l'heure, dire l'importance que vous trouviez intéressant qu'on vienne. On a un défi de communication, de dialogue. Je pense qu'il y a beaucoup d'organismes, il y a beaucoup d'associations de défense de droits des personnes handicapées, là. Puis, qu'est-ce qu'on a en commun? On a en commun de favoriser la participation sociale. C'est des choses qu'on partage ensemble, mais on a des rôles complémentaires. Puis, c'est important d'établir un dialogue pour comprendre cette complémentarité-là, puis que les actions d'un aident à l'autre, même si les actions sont différentes, puis les moyens d'action sont différents. Fait que je pense à une occasion comme aujourd'hui, puis les efforts que vous faites des missions là, pour amener des sujets comme ça, c'est extrêmement important dans l'établissement de ce dialogue.
Je me demandais, moi, pendant la dernière semaine des personnes handicapées, l'OPHQ a créé sa première page Facebook. C'était la Semaine québécoise. C'est le titre qu'elle portait, la Semaine québécoise des personnes handicapées. Puis je me demandais, en fait, on parle d'établir un dialogue, de vouloir offrir un maximum de transparence possible, de visibilité. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi le PHQ n'a pas sa propre page Facebook pour pouvoir rejoindre...
En fait, c'est qu'on n'avait pas d'expérience dans le domaine. Hein. C'était une première autour de la Semaine québécoise. On voulait tester, voir qu'est-ce que ça prenait comme ressources, comme énergie, à quoi ça nous confronterait. Là, on est en train de faire le bilan de cette expérience-là, puis on verra comment on peut donner suite. Ça va faire partie de nos réflexions.
Oui, oui. Parlons-en de ce plan. Mais tiens, je veux revenir sur... Vous avez dit des rôles complémentaires. Vous pensiez à quoi quand vous avez dit ça? Il est important qu'on connaisse les rôles pour travailler en complémentarité.
Oui. La loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées, là, elle donne certains devoirs, responsabilités à l'Office des personnes handicapées, mais pas qu'à l'Office des personnes handicapées. Hein. Il y a certaines dispositions de la loi qui donnent des responsabilités à d'autres acteurs. Je pense aux dispositions sur les plans de développement de transport, les dispositions sur, c'est l'article 26, là, sur la politique d'accès aux documents et services, sur une stratégie en emploi. Il y a les plans d'action, la disposition sur l'obligation de plan d'action annuel. Donc, il y a beaucoup d'acteurs qui sont interpellés pour faire des choses, qui ont des responsabilités. Nous, notre rôle, on est en soutien conseil à ces partenaires-là. Donc, on est complémentaires. Eux ont des devoirs, des responsabilités, mais nous, on est là dans l'appareil gouvernemental pour soutenir, conseiller les partenaires gouvernementaux dans l'action qu'ils doivent faire pour répondre à leurs responsabilités. Ça, c'est par rapport, mettons, je m'exprimais peut-être plus là, quand je parlais de partenaires, à ceux qui ont à dispenser des services ou adapter leurs services, là. Mais, bien sûr, le milieu associatif des personnes handicapées, le milieu communautaire autonome de défense de droits, c'est aussi un autre partenaire dont l'action peut être complémentaire. C'est-à-dire que là, c'est vraiment axé sur la défense de droits, qui exerce un rôle de vigie, un rôle de pression dans le jeu démocratique, ouais, là, des priorités. Et donc, c'est important qu'il soit présent. Mais c'est d'autres moyens d'action, mais c'est important qu'on se parle, qu'on sache qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on voulait faire, puis qu'on échange des informations. Mais on n'a pas les mêmes moyens d'action.
Là, j'écoute ce que vous dites, Anne Hébert. Vous aidez des organismes qui sont partenaires au gouvernement pour mettre en action, que ce soit des plans dans différentes sphères de la vie. Et vous êtes là également pour soutenir le milieu. Et vous savez que le milieu et le gouvernement, on tire la couverture. Un dit on n'a pas d'argent, l'autre dit oui, mais nous, on n'a plus de vie. Est-ce que c'est dans l'OPHQ que finalement ça déchire? Parce que vous êtes comme entre les deux?
Oui, c'est sûr qu'on des fois, on sent entre l'arbre et l'écorce puis déchirer. Mais c'est ça un peu la beauté, la difficulté de ce mandat-là. C'est-à-dire, c'est soutien, l'expression qu'il faut retenir, c'est soutien. Qui ne résume pas toutes nos responsabilités, mais une expression importante, c'est le soutien-conseil. C'est-à-dire qu'on est là pour soutenir, conseiller, trouver des voies de passage. C'est sûr qu'on est plus dans... il faut défendre des orientations, il faut défendre des principes. Puis les orientations, les principes qui nous guident sont assez clairs, sont exprimés dans la loi, dans la politique à part entière, dans beaucoup de documents. Mais une fois cela... dit.
C'est la mise en place qui est plus difficile.
Qu'il faut assez faire la mise en place. Comment on peut y aller par étapes? C'est quoi les voies de passage? Mais nous, il faut être un outil, un facilitateur dans la discussion puis dans les décisions qui doivent être prises pour dire, bon, dans la situation X, qu'est-ce qu'on fait? Comment on procède? Qu'est-ce qui est mieux de faire? Ouais. Donc, on est comme partie prenante des réflexions qui mènent à des décisions. Les décisions, elles se prennent par les instances gouvernementales, pour ceux qui ont les responsabilités. On essaie le plus possible de les influencer. C'est sûr que des fois, c'est pour ça qu'il faut que ça soit complémentaire. Il faut qu'il y ait des organismes qui nomment les problèmes, qui rappellent les orientations qui doivent guider, selon eux, la résolution des problèmes. Puis nous aussi, il faut faire ça, mais nous, il faut aussi, puis c'est ça qui fait une différence là, par rapport à d'autres groupes, d'aider. Le soutien, là, c'est d'aider ceux à qui on prend des décisions sur comment procéder pour y arriver, par quelle étape, quelle meilleure décision doivent prendre. On doit les éclairer sur ça. Mais les décisions, bien sûr, leur appartiennent.
OK. Venons au plan quinquennal, qui est encore tout chaud.
Oui.
Les choses qui vous... disons, qui sautent aux yeux, là.
Bon, une première orientation très importante, c'est une orientation dans notre plan stratégique, mais c'est aussi une orientation gouvernementale, c'est les services directs à la population. Puis l'Office offre un service d'accueil référence qui donne de l'information aux personnes là, sur les programmes existants, puis aussi soutient, conseille les personnes handicapées dans leur démarche pour obtenir des services. Ça, c'est des services directs à la population. Et dans le plan stratégique, il y a une orientation, un enjeu lié à ça. C'est clair qu'on veut se positionner très clairement dans l'offre de services. On veut les renforcer. On veut maintenir des standards très élevés de qualité de service. Ils sont déjà très hauts, mais on a mis la barre encore plus haute sur le taux de satisfaction. Et puis, surtout, ce qui est important, on veut se positionner comme un guichet unique d'accès à l'information au programme. C'est une priorité dans la politique à part entière. On parle d'un guichet unique. C'est une recommandation de la protectrice des citoyens dans plusieurs rapports d'aller vers ça. Et donc, on veut créer des partenariats avec d'autres dispensateurs de services pour aller vers un guichet unique. Qu'est-ce qu'on veut dire de guichet unique? Ouais. C'est que, actuellement, il y a beaucoup de programmes. Quand on parle là, au Québec des mesures qui existent aux personnes handicapées, il y en a plus que 200. Elles ne sont pas connues beaucoup des personnes.
Dispersées
un peu partout, quelle porte elle est frappée, etc. Certaines sont peu connues, je pense, à certaines mesures fiscales, entre autres. Oui. Et c'est compliqué, une personne d'aller cogner.
C'est effectivement vraiment difficile.
Là, nous, on essaie, quand on parle de guichet unique, c'est de simplifier ça pour les personnes et leurs familles et leurs proches. Là. C'est-à-dire que ce soit plus facile d'avoir un accès là, où je vais trouver toute l'information.
Une plateforme qui regroupe.
C'est ça. On a déjà commencé à travailler dans cette perspective-là avec Service Québec. Service Québec, c'est son mandat d'offrir l'information sur les services gouvernementaux. Puis là, on a créé une entente d'interconnexion. C'est-à-dire que les personnes qui appellent puis demandent des renseignements relatifs à des mesures aux personnes handicapées, si ça va au-delà d'une information générale, sans que la personne s'en rende compte, c'est quelqu'un de l'office qui va répondre. De sorte que faut que ça soit plus simple pour le citoyen là, d'accéder à cette information-là. On en fait vraiment un enjeu important de notre plan stratégique.
Est-ce que ça semble quelque chose de facile à intégrer ou, justement, ça semble plus facile que c'est et il va falloir plancher là-dessus assez longuement?
Bien, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs dispensateurs de services, il y a plusieurs voies d'accès. Fait que là, on a commencé par Service Québec, qui était une porte très importante là, d'accès, mais il faut aussi voir d'autres partenariats avec les réseaux de la santé, avec le milieu scolaire. Fait qu'on va explorer ça, là. Ça fait partie de nos priorités. Puis, faut pas exclure non plus le partenariat avec le milieu communautaire qui offre des services, parce que souvent, les personnes handicapées ou leur famille, leur premier réflexe, c'est s'adresser aux associations parce qu'il y a une connaissance là, il y a un échange sur la réalité. Donc, il va falloir voir aussi établir un partenariat, comment on peut les aider. Nous, la différence, c'est la connaissance des processus gouvernementaux, des démarches qu'on peut être conseillé. Puis c'est aussi le complément quand c'est difficile parce que bon nombre de situations peuvent se résoudre par l'accueil référence. On dit aux gens, allez là, complétez votre... Il y a tel formulaire, on donne l'information de base. Puis là, les gens sont autonomes dans leur cheminement. Mais quand ils rencontrent plus de difficultés, on offre aussi un soutien, conseil, accompagnement dans des situations plus difficiles où les gens ont besoin du travail de représentation de l'office dans des situations individuelles. Là, ça peut faire une différence.
OK. Donc, on regarde ça. On regarde ça aller. Sinon, il y a d'autres orientations. Entre autres, je sais, certaines mesures, que ce soit l'emploi, le transport.
L'emploi, ce qui est intéressant de mentionner, c'est que dans la mise en œuvre de la loi, là, il y avait une stratégie d'intégration de métiers en emploi qui était prévue. Elle a été adoptée, mais cette stratégie-là rentre dans sa deuxième phase de mise en œuvre. Tout comme la politique à part entière, d'ailleurs. Là, j'ai oublié de mentionner que notre ministre responsable, Mme Charbois, nous a donné le mandat à l'Office de coordonner à nouveau l'élaboration des engagements pour la mise en œuvre de la politique à part entière pour les 5 prochaines années. Là. Il se passe la même chose avec par rapport à l'emploi, mais ça suscite tout ce questionnement-là sur les moyens qui seront retenus pour mettre en œuvre la stratégie en emploi. Ça arrive dans un contexte budgétaire, d'objectifs de réduction budgétaire, puis ça pose un certain nombre de questions sur les moyens qui devraient prendre certaines décisions d'ajustement. On est en réflexion, nous, on sait que le milieu de la défense de droit aussi réfléchit à des préoccupations, par exemple, sur le programme CIT, sur entreprises adaptées. Donc, il faut réfléchir, c'est une bonne illustration, là, il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on suggère dans un contexte de réduction de faire pour donner quand même une impulsion à cette stratégie-là pour qu'elle ait des effets positifs. Puis, il faut aussi avoir des échanges avec ceux qui, avec le milieu communautaire pour garder des voies de passage.
Est-ce que l'étude d'un revenu garanti serait sous la, disons, le parapluie de l'emploi? Ou c'est un autre?
Non,
c'est... Et est-ce que ça fait partie du plan quinquennal? Est-ce qu'il y a une réflexion à l'Office?
En fait, ça fait pas partie de l'emploi, mais dans la politique à part entière, il y a une priorité qui s'appelle bonifier le soutien aux revenus. Et dans le plan d'engagement qui se prépare là, pour la mise en œuvre de la politique, il y a un engagement sous le leadership de l'Office de mener des travaux de réflexion sur comment on devrait bonifier le soutien aux revenus. Puis dans le comment on devrait bonifier le soutien aux revenus, il y a plusieurs avenues possibles, puis il y a des situations différentes qui appellent à des moyens différents. Il y a des personnes qui pourraient bénéficier de soutien aux revenus, puis aussi travailler à temps partiel. Comment on aide à ça? T'sais, on soutient ça? Est-ce que les moyens qui existent actuellement sont suffisants? Le permettent-ils? L'encouragent-ils? Que ça soit vraiment un incitatif au travail. Mais il y a des gens aussi qui ne désirent pas, qui ne sont pas en mesure de travailler ou que l'action... travailler, c'est pas une option qu'ils souhaitent, qu'ils sont capables. Mm-hmm. Et là, il faut réfléchir aussi à des moyens pour améliorer leur situation. Toutes ces questions-là vont faire partie du champ de réflexion qu'on veut entreprendre.
Justement, je prends cet exemple-là pour revenir un petit peu au rôle. Est-ce que dans un dossier comme celui-là, vous devrez proposer au gouvernement une piste de solution qui va aider les personnes handicapées dans leurs différentes réalités, ou au contraire, vous aurez comme rôle de mettre en pratique ce que le gouvernement va décider.
Dans ce cas-là, le sens de l'engagement, c'est de proposer des avenues de solution.
D'accord.
On propose des avenues de solution, puis on va... Dans notre réflexion, on va s'associer à d'autres ministères et à d'autres groupes pour le faire. On fait des propositions. Après, une fois que les propositions sont connues, sont déposées par l'Office, bien là, s'il y a un processus de réflexion par les décideurs qui s'enclenchent, d'évaluation, de faisabilité, puis ça, là, c'est un autre processus.
Ouais.
Dans ce cas-là, c'est plus comme ça là, que c'est envisagé pour le moment. On va aller avec des propositions de solutions. D'ailleurs, on en a déjà mis sur la table, il y a, je crois, un an et demi, deux ans, je ne me souviens pas exactement de la date, il y avait eu une pétition sur, un peu dans le même sens, de préoccupation de bonification de soutien revenu. C'est une pétition qui demandait de bonifier de 10 % l'aide de dernier recours, là, le programme de solidarité sociale. Puis il y avait eu une commission parlementaire à ce sujet-là, puis on avait déposé un mémoire. Dans le mémoire, on retrouve certaines pistes de réflexion, là, certaines propositions de solutions. On va partir de ça, là, puis on va essayer d'aller plus loin dans la réflexion, de les rendre plus précises, nos propositions. Mais notre...
De toute façon, 10 % de quoi? 603 piastres environ, là, il y aurait peut-être dû annuler la commission parlementaire, prendre cet argent-là et simplement envoyer le 70 piastres aux différentes personnes. Il n'y en a pas tant que ça. Là.
Non, mais là, c'était un exercice démocratique. Il y avait une pétition déposée par des citoyens qui réclament ça. Il faut que les parlementaires examinent ça, entendent le point de vue des différentes personnes. Il y a plusieurs personnes qui sont venues déposer des mémoires, là, des personnes, des individus, des personnes handicapées. Il y a des groupes qui sont aussi du milieu de la défense des droits qui sont venus. L'Office aussi, ça fait partie du processus démocratique.
Ouais. Transport?
Oui, parce qu'on on parle d'emploi tantôt, puis je me disais, moi, je pense que c'est vraiment important d'avoir des programmes, en fait, qui valorisent l'intégration des personnes handicapées sur le marché du travail, puis il y a un travail de sensibilisation à faire aussi auprès des employeurs pour leur exprimer, en fait, toutes les qualités différentes, mais exceptionnelles, qui vont venir enrichir leur personnel, puis c'est correct qu'il y ait des programmes pour ça, mais je me dis... la base, en tout cas, selon moi, ma conception des solutions pour permettre une meilleure inclusion des personnes avec des déficiences sur le marché du travail passe, en fait, étrangement, par toutes les autres sphères de la société. Donc, s'il y a un système de transport qui est plus efficace, si les programmes, les services sont plus facilement accessibles, ben je pense que, tu sais, automatiquement, ça va devenir beaucoup plus facile pour ces personnes-là de se trouver un emploi. C'est difficile pour une personne en situation de handicap d'aller passer une entrevue si elle doit utiliser le transport adapté, puis elle ne sait pas si elle va arriver 45 minutes en retard à son entrevue.
Bon point, M. Breton.
C'est intéressant que vous l'ameniez comme ça, l'importance des transports ou des déplacements des personnes.
Non? C'est tout transversal.
Oui, c'est ça. Ouais. Il y a beaucoup d'effets de... J'utilise beaucoup ce mot-là, là, complémentarité, mais c'est d'interdépendance. Ouais. Si on a beau faire des efforts sur le travail puis trouver des moyens, mais si la personne n'est pas capable de se rendre d'être ponctuelle, bon, ça unit. C'est pourquoi dans la politique à part entière, là, dans les résultats visés, il y a des groupes de résultats visés, puis vers une, il y en a un qui c'est vers une réponse complète aux besoins essentiels, et les déplacements ont été mis dans cette catégorie-là. D'un besoin essentiel, puisque la politique vise, c'est vraiment d'aller vers une réponse complète aux besoins essentiels. Les déplacements sont dans cette catégorie-là, justement dans cet esprit-là d'interdépendance, des effets que ça fait pour réaliser les autres habitudes de vie. Là.
On parle de tous les rôles sur le grand échiquier démocratique, puis j'aimerais savoir un exemple, en fait, pour peut-être un, parce que moi-même, je suis nouveau dans le milieu, puis j'ai des notions qui m'échappent encore, mais je me dis, nous, chez Execo, dans notre plateforme de revendication, on demande au gouvernement, au ministère du Transport, de créer un fonds dédié, qui serait dédié à la mise en accessibilité du métro. Hein, parce qu'en ce moment, il y a peut-être une station par année qui devient accessible. On identifie un problème, on le communique aux différentes institutions. Là, vous m'expliquez que le travail de l'OPHQ, c'est de déposer des demandes ou de souligner des problèmes. Ce serait quoi la suite du processus?
Par rapport au métro.
Par exemple.
Bon, dans le métro, ce qu'il faut regarder, là, je vais prendre cet exemple-là, c'est quelles sont les parties prenantes là, dans le métro. C'est pas juste le ministère du Transport, il y a la STM, il y a d'autres partenaires. Donc, il faut s'adresser à ces partenaires-là, il faut regarder ce qui se fait. C'est sûr qu'il faut à la fois faire preuve de détermination, persévérance.
Ouais.
Persévérance est un. Importante, mais aussi entre, j'insiste sur le fait que c'est l'accessibilité du métro de Montréal, c'est extrêmement important, hein, comme accès à personne ne va nier ça.
Comme inclusion sociale, c'est partie intégrante.
Par rapport à participation, c'est ça, personne ne va nier, mais ça interpelle des budgets importants.
Ouais.
Parce que là, on corrige. On n'est pas à... S'il n'y avait pas de métro à Montréal, puis on bâtissait à nouveau le métro, là, on le ferait très différemment, puis ça coûterait bien moins cher de corriger
Absolument.
La façon. C'est pour ça qu'on fait la promotion d'une approche plus inclusive, là, d'éviter des corrections. Mais là, dans le cas du métro, c'est pas le cas. Là, bon.
Oui, on l'a vu, Laval, dès qu'ils ont construit, c'était accessible.
Ça. Là, donc, il s'agit de corriger une situation... Puis ça demande des efforts budgétaires importants. Donc là, il y a des choix à faire sur les lieux, lesquels, les étapes, etc. Je sais que la STM a un processus là, avec des partenaires du milieu pour discuter de ces solutions-là, de ces approches par étapes. Donc, c'est de participer à ces réflexions-là,
justement,
à ces consultations-là.
Est-ce que l'Office peut travailler sur des situations locales plutôt que provinciales?
On le fait. Parce qu'on a des effectifs dans toutes les régions du Québec qui travaillent au plan, nous, on dit dans notre langage, au plan collectif. Là, c'est-à-dire, on essaie de travailler à réduction des obstacles, des problèmes là, à des niveaux locaux et régionaux. Puis au plan individuel, c'est souvent bien, local, bien sûr, où vit la personne. Là. Mais oui, on le fait. Il faut aussi dire qu'il y a une disposition de la loi sur l'exercice des droits des personnes handicapées là, qui oblige les organismes de transport à déposer des plans de développement.
Oui, oui. Pas beaucoup de mordants, par exemple. C'est, ça oblige, mais si on le fait pas...
Non, bien, c'est ça. Nous, on a suggéré, puis ça, c'est intéressant que je le souligne, c'est que...
20 secondes.
Ah, pardon. C'est ça, parce que là, c'est une preuve de l'influence puis du jeu démocratique. On était consultés pour la politique québécoise de mobilité durable. On était préoccupés au fait que quel suivi on donne une fois que les plans de développement de transport sont approuvés, là, quel suivi on donne. Puis on était préoccupés pour ça. Oui. On a fait une suggestion d'avoir comme une prise un peu sur ça. Puis notre suggestion a été retenue d'inclure un critère qu'on se préoccupe de l'accessibilité avant de donner des subventions.
Ça va couper, mais merci d'être passé. On revient dans deux minutes.